Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'être venus si nombreuses et si nombreux au Centre Pompidou aujourd'hui. La Bibliothèque publique d'information est heureuse de vous accueillir pour cette rencontre qui s'intitule « Chercher le texte autour des littératures numériques ». Je vais laisser la parole à Philippe Boots, qui est l'organisateur d'une semaine de colloque international qui va démarrer demain, dont nous sommes un peu l'avant-première, et qui va vous présenter un petit peu à la fois le débat de ce soir et un petit peu la suite de la semaine et l'esprit de ce colloque. Bonne soirée.
Merci Jérémy. Bien, je suis très heureux de démarrer ce festival Chercher le texte ici au Centre Pompidou, parce que le Centre Pompidou et notamment la BPI a une très longue histoire en fait de relations avec la littérature numérique. Alors ce débat suivi de soirées de performance, c'est le lancement et l'inauguration d'un festival qui va durer une semaine ici, un temps fort. Alors ça va se poursuivre demain avec une journée de colloque, puis une exposition sur les littératures numériques d'hier à demain, dans lequel il y a entre 200 et 300 œuvres et près de 150 artistes, puis une série de performances également à la BNF, et les trois jours suivants, mercredi, jeudi et vendredi, des séries de colloques de l'organisation internationale ELO, Electronic Literature Organization, à l'ENSAD, suivie de soirées de performances au Cube. L'exposition de la BNF va durer pendant 2 mois, donc vous aurez tout à fait le temps d'aller la voir. Et je ne sais pas si le nom du site, non, le site n'est pas indiqué, mais je vous invite à aller consulter le site Chercher le texte, en un seul mot, à l'infinitif.org. Eh bien, je vais tout de suite laisser la parole à Emmanuel Guèze, qui est un fin connaisseur des écritures numériques, pour nous lancer ce débat.
Merci Philippe. Bonsoir à tous. Je vais très très peu parler, non, vraiment, parce qu'en général quand on commence comme ça on parle beaucoup, mais moi je vais vraiment très très peu parler, parce que ce débat va durer une heure, question comprise. Il est question de la littérature numérique. Je vais juste vous préciser une chose qui me semble importante. La littérature numérique, ce n'est pas la transposition homothétique du livre dans l'environnement numérique. Je veux dire par là que ce dont nous allons parler tout au long de cette soirée, ce n'est pas d'auteur ni d'œuvre livresque qui serait traduite en PDF et diffusée sur des Kindle ou autres readers, lecteurs de ce genre. C'est une littérature spécifique. C'est une littérature qui a et considère que le numérique dans son ensemble, l'environnement numérique, les machines, sont un médium à part entière. Autrement dit, la littérature numérique ne peut être écrite et lue qu'avec des machines. Ça me semble important pour éviter toute confusion et au cas où vous seriez trompé tout simplement de soirée. Donc on va rester dans ce champ-là. Et j'ajouterai une deuxième chose, c'est que la littérature numérique a longtemps été boudée, c'était une niche de spécialistes. Or maintenant, on ne peut plus en être là, et bien évidemment. L'environnement numérique est partout, les mutations liées à cet environnement touchent la science, l'économie, bien évidemment, le politique et, évidemment, la littérature. Donc, on peut faire cette hypothèse que nous sommes maintenant à une période de maturité qui permet à la littérature numérique de s'ouvrir bien plus qu'elle ne l'était jusqu'à présent. Alors, j'ai l'immense plaisir de recevoir là trois personnes qui représentent chacun. Alors, je dois dire que Philippe Boots, qui a organisé cette table ronde, a très bien organisé, l'a vraiment très bien organisée, parce que cette table ronde peut à elle seule dresser un tableau de ce qu'est la littérature numérique à travers trois perceptions, trois axes qui sont caractéristiques. Alors, j'ai demandé à nos intervenants de vous présenter chacun une œuvre ou deux, pas plus, et d'exposer un des axes, un axe qu'ils auront choisi en particulier. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Castelin, que je vais présenter dans quelques secondes, Juliette Mézin, à ma droite, et à ma gauche, Jérôme Fletcher. Jérôme Fletcher, qui nous vient de la Grande-Bretagne, et qui, là aussi, je vous rassure un petit peu, parle parfaitement bien le français. donc, Philippe, je vais commencer par vous. Vous êtes au tu. Allez, tu. Je commence par toi. Tu es une figure historique. Je suis désolé, mais... Enfin, tu es un pionnier, on va dire ça comme ça. Tu es un pionnier de la littérature électronique et numérique française. Tu es l'éditeur de la revue Docs dès 1990. Tu reprends la suite de Blaine. Tu as fondé avec Jean Torregrosa, qui est là-bas, le groupe Akhenaton, un groupe qui propose des œuvres multimédia, on va dire, hein, enfin, en tout cas multi-support, qui mêle les nouveaux et les anciens médias. Et ton travail, si ma connaissance est juste, porte sur cette question de l'interaction entre le texte et l'image, mais d'un point de vue très particulier, qui est le rapport au code, c'est-à-dire que finalement le code, c'est du texte, mais c'est du texte qui est lu par une machine et donc qui implique du...
On a 10 minutes, c'est
ça ? Ah bah 10 minutes, ouais. Top chrono.
C'est parti. Bon, je vais comme il n'y a pas de son, pour faire comprendre, malheureusement je ne vais pas commencer par montrer les œuvres, vous allez comprendre pourquoi. Alors je vais vous lire un petit texte. Elle a dit ça. Ça, elle l'a dit. Je suis sûr qu'elle l'a dit. Et là, elle dit ça. Et ça, ça ne peut pas aller avec ça. Alors je lui dis, tu ne vas pas me dire que tu n'as pas dit ça. Non. Alors elle dit, alors ça c'est tout toi. Je ne peux pas te dire si j'ai dit ça ou pas ça. Peut-être que j'ai dit quelque chose qui n'était pas vraiment ça, qui ressemblait un peu à ça, mais de loin. Ça ressemblait, mais ce n'était pas ça. C'est toi qui l'as compris comme ça. Comme ça t'arranger. Ce que je sais, c'est ce que je dis. Et ce que je dis, c'est ça. Mais enfin, moi, je sais que tu l'as dit, je me souviens très bien, c'était quand on était en Sardaigne, à Sassari. Tu ne vas pas me dire que Sassari, ça ne te dit rien. En tout cas, c'est pour ça que je suis certain que c'était bien ça. Et ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas coller avec ce que tu dis là. Voilà, c'est ça. Ça ne peut pas aller ensemble. On ne peut pas dire en même temps ça et ça. Ça, c'est clair. Ah, elle dit. Ah oui, on ne peut pas dire ça et ça en même temps. Mais ce n'est pas en même temps que je le dis. Et même si j'avais dit ça, ça, là, c'est après, c'est plus tard. Et ça, c'est avant, c'est bien avant ça. Je ne sais même plus quand ça s'est passé, mais c'est du passé. On ne va quand même pas passer son temps à tout ressasser du passé. En tout cas, ça n'est pas en même temps que ça. Ça efface ça. Oh, ça. Ah, ça, alors je dis, on ne peut quand même pas dire tout et n'importe quoi. Ça, c'est sûr. Tu ne vas pas dire le contraire. On ne peut pas mettre tout dans le même sac. Ça n'a aucun sens. Je ne vois pas, elle dit. Je ne vois pas pourquoi tout serait le contraire de n'importe quoi. La preuve, c'est que si on dit n'importe quoi, c'est parce qu'on ne peut pas tout dire. Alors ça, alors je coupe. Ça, ce n'est pas la question. Ce n'est pas ça du tout dont on parlait. Non, elle dit, mais c'est ça dont je parle. Mais ça ne veut rien dire du tout ce que tu dis. Je dis, et toi, tes poèmes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ce que ça veut dire, je cite. Et en plus, ça se prend pour Apollinaire, elle dit. Bon, ça va, on ne va pas se disputer pour ça. Il y a autre chose que ça dans la vie. D'abord, moi, je n'ai pas que ça à foutre. Et je n'ai pas envie de me prendre la tête avec tout ça. Tu comprends ça, que tu commences à me gonfler avec tes salades ? Ça avance à quoi de savoir si j'ai dit ci ou ça ? Bon, je dis, si tu le prends comme ça, moi, je me casse. Tu te casses où ? Elle dit, à ça, Sari, je dis. Voilà. Alors, pourquoi je commence comme ça ? C'est parce que moi, je ne dis pas, je suis poète numérique. Je dis, je suis poète. Comme tu l'as dit, j'utilise, avec Jean et dans d'autres situations, des moyens variés. Et parfois, j'écris sur un bout de papier. C'est le cas de ça. Hein, voilà. Et j'ai pas je ne suis pas un idolâtre de la modernité. Par ailleurs, j'adore effectivement programmer, j'adore le code pour d'autres raisons que je ne peux pas expliquer ici. Bon. Alors voilà. j'ai écrit ça. Je regarde ça et je me dis ça. Si je voulais faire quelque chose de numérique avec ça, comment je ferais ? C'est pas évident. C'est pas évident. Alors évidemment, il y a des choses qu'il faut balayer d'entrée. C'est l'idée, par exemple, qu'on va mettre ça sur un écran, on va un PDF, comme tu disais, une liseuse, etc., etc. Ça m'intéresse pas. Donc, c'est pas ça que j'ai fait. Alors, je vous montre la chose. Première version. Bon, vous avez compris, ça peut durer une éternité. C'est pour ça que j'arrête, puisqu'on n'a que 10 minutes. Bon. Mais si ça peut durer une éternité, c'est parce que je le veux. Je veux dire que c'est une des caractéristiques que je trouve intéressantes dans les écritures numériques, c'est que justement, on touche à des questions qui sont celles de la... je vais être un peu, là, je vais un peu ronfler, hein, mais Emmanuel Guez ne me le reproche pas, de la différence dans la répétition, de la répétition dans la différence. On peut gérer ça, qui est difficile à gérer dans d'autres cas si le code n'intervient pas, y compris dans le cas de la vidéo, des choses comme ça. On est dans le séquentiel, on est dans le linéaire, on n'est pas dans l'infini, on n'est pas dans la répétition différentielle ou différenciante, etc. Donc, là, comment j'ai fait ? Alors, ça a une conséquence, à rebours, par rapport au texte. C'est que, d'une certaine manière, la visibilité qui monte en surface se traduit par une baisse de la lisibilité. C'est-à-dire que cette chose-là, est-ce qu'on peut envisager de la regarder dans son lit comme on lit un livre ? Dans son lit, ou, hein, je ne sais pas où vous lisez. Bon. Voilà. Non, visiblement pas. Est-ce qu'on peut s'installer devant ça, comme ça ? Non, visiblement pas. Alors, comment je l'envisage, moi ? Moi, c'est là qu'intervient ma théorie des images lentes. Moi, je pars de l'idée que finalement, à terme, c'est une utopie, hein, à terme, on pourrait imaginer qu'il y ait des écrans plats intégrés dans les maisons, qu'on puisse s'abonner à un poète. Alors ça, là, c'est de l'utopie complète. Hein, et que, donc, on ait ce type d'image qui soit... diffusé chez soi, plus ou moins corrigé en temps réel ou pas, enfin bon, par l'auteur lui-même. Hein, d'autre part, je vois ces choses-là comme une sorte de tableau mouvant qui peut parfaitement être interactif avec des paramètres multiples de l'environnement, hein, ça va de soi, au fond, c'est un peu comme un bocal à poisson rouge. Hein, dans une maison, à quoi ça sert un bocal à poisson rouge ? À rien du tout. Et pourtant, moi, j'ai toujours trouvé que c'était fascinant. Les bocaux. Oui, c'est pas les bocals, les bocaux. Les bocaux à poisson rouge. Voilà. Donc, ce poème-là fait partie de la série dite des images lentes, qui, alors, j'en ai fait tout un tas, hein, je passe. Voilà. Alors, évidemment, vous vous rendez compte que ça exclut, par exemple, le son. Parce que si tu as du son dans une maison, sur ton truc comme ça, tous les jours et tout, non, gonflant, c'est pas possible. Donc, je mets pas de son. Il m'arrive de travailler avec le son, mais pour d'autres perspectives qui sont celles de la fusion des médias, etc., etc. Bon, alors, je mets ça en ligne, je préviens quelques personnes via Facebook, et il y en a toujours deux, trois qui vont voir, qui me disent ça marche pas, évidemment, parce qu'ils n'ont pas installé Java, parce que ceci, parce que cela. C'est en ligne, hein, ce truc. Et il y a quelqu'un qui m'envoie un mail en me disant « Ah, ça a l'air intéressant, le texte. Mais on n'arrive pas à le lire. Ah. » Alors, moi, je me dis « Bon, faut trouver une solution. Il faut trouver une solution. Je ne peux pas mettre ça comme ça. J'ai expliqué pourquoi. Visiblement, alors, est-ce qu'il y a une autre manière de faire ? Alors, voilà la deuxième solution qui, d'une certaine manière, répond à la question « on n'arrive pas à lire ». Voilà. Alors, vous voyez que la solution est autre. Bon, je conclue simplement.
Oui, parce que ça a pris beaucoup de temps.
Je suis dépassé, voilà. Ben, ça pose la question, pour moi, ça pose la question du temps, oui. Ça pose la question de la narrativité, ça pose la question, alors, des paramètres que le texte classique ne peut pas mettre en jeu, et que là, je peux mettre en jeu. etc. etc. Voilà.
Non, mais c'est exactement ça. C'est, quand tu dis texte classique, c'est texte imprimé.
C'est bête comme expression.
Oui, oui. C'est, non, c'est juste pour avoir ce contraste. Le livre. Ouais. Ok. Ah oui, il y a la question des livres d'artistes, il y a la question des livres d'abord écrits sur, avec le médium numérique traduit sur papier comme Danielewski, etc. Je me tourne vers Jérôme Fletcher. Vous êtes où tu es? On se tutoie aussi.
Falmouth University.
Oui, tu es chercheur à l'université de Falmouth, artiste, oui. Performeur.
Oui.
Les œuvres que vous allez, ou l'œuvre que vous allez nous présenter, concerne le rapport, il me semble,
oui.
Le rapport de homme-machine, avec ce présupposé qui est celui de l'incorporation par le corps, l'incorporation par le corps, c'est évidemment cette incorporation de la technologie pour que la technologie prenne sens. Et c'est le propre de la littérature, justement, que de donner du sens au langage.
Oui.
Vous travaillez aussi beaucoup sur la traduction.
Oui.
Ouais. Voilà.
Bon, OK.
Ouais.
Bonsoir. Je vais vous présenter une de mes œuvres, mais moi, je ne suis pas tout à fait sûr si c'est l'œuvre elle-même ou non. Il faut décider. En fait, c'est plutôt une vidéo capture d'écran d'une performance de l'œuvre par moi. Ceci est une performance particulière. Mais pour moi, la littérature numérique est toujours performative dans tous ses aspects. Et tout cela pose la question dès le début, et l'œuvre de Philippe l'a déjà posée, c'est quoi et c'est où l'œuvre? Alors, comme vous voyez, le titre de l'œuvre, c'est... Alors, on ne sait pas exactement, ça dépend. Si on prononce le titre, si on le dit, c'est ou en français un fragment du mot « heureusement » ou en anglais un mot un peu bizarre, « reusement », qui signifie peut-être « réutilisation ». C'est important parce que les textes de cette œuvre sont vraiment réutilisés. Si on ne l'énonce pas, le titre reste un peu comme le chat de Schrödinger, à la fois français et anglais. Et c'est cette incertitude se trouver entre langues, surtout entre les langues naturelles et les langues artificielles de la code, qui m'intéresse et qui est pour moi une des caractéristiques fondamentales de la textualité digitale. Alors, qu'est-ce qu'on regarde ici? Quelle est la technique? En fait, l'œuvre est composée d'une série de couches et le lecteur doit gratter, si vous voulez, électroniquement sur chaque couche avec la souris pour révéler les textes qui gisent en dessous. Il faut fouiller les textes. Et en fouillant, on efface ou on transforme les textes précédents. En ce qui concerne la mode de composition, cette œuvre est un mélange de textes trouvés et de traduction de ces textes. Les textes trouvés viennent du premier livre de l'autobiographie de Michel Leiris. On le reconnaît peut-être. Ce premier livre s'appelle Bifur, vous voyez le lien entre le titre et la technologie de l'œuvre. Et le premier chapitre de Bifure s'intitule « Heureusement ». Alors, dans ce chapitre, Léris raconte, ou plutôt essaie de raconter un moment de sa jeunesse. Il est assis à table dans la maison familiale, jouant avec ses petits soldats en plomb. Tout d'un coup, il laisse tomber un de ses soldats. Alors, il commence à chercher son soldat tombé. Le problème pour Léris, en décrivant cet événement beaucoup d'années plus tard, c'est qu'il ne se souvient pas très clairement des détails. C'était dans quelle pièce ? Le salon, la salle à manger ? Comment était la table ? En bois, en métal, en forme de cigogne ? Sur un tapis ou un plancher nu ? Il était seul dans la pièce où il y avait d'autres avec lui, une de ses sœurs, peut-être un parent. Alors, ce qu'il décrit, Léris, sont les souvenirs fragmentés de l'événement. Dans la mémoire, il cherche la vérité du moment, comme il a cherché son soldat. Mais cette vérité est toujours incertaine, désintégrée, inachevée, incomplète. De la même manière, l'utilisateur, le lecteur, le performeur, ce qu'on veut, comment on veut l'appeler, de cette œuvre digitale, performe l'action de fouiller les fragments de texte pour trouver la description du souvenir complète. Évidemment, c'est impossible. Quoiqu'à la fin, Léris a trouvé son soldat, il s'est perdu dans la description complète de l'événement. Et la technique gesturelle et visuelle de cette œuvre reflète cette recherche avec la même incertitude qui en résulte, la même manque d'intégration. Ce qui reste ne sont que les phrases fragmentaires, ces morceaux de mémoire. Encore de confusion qui existe entre l'auteur et le lecteur du texte. Comme dit Humpty Dumpty, dans de l'autre côté du miroir, en ce qui concerne les mots, il faut savoir qui est le maître. En fait, il y a plusieurs écrivains. Léris lui-même, moi, aussi dans le rôle de traducteur, tous ceux qui ont écrit les codes, la machine et l'utilisateur qui compose et recompose le texte à chaque instant. On ne peut plus parler de l'auteur comme individu. On doit parler de l'auteur composition qui peut être occupé par diverses figures au moment divers. Finalement, pourquoi une œuvre bilingue ? À mon avis, la mémoire elle-même est un processus de traduction plutôt que reconnaissance. En plus, la traduction souligne une augmentation de l'incertitude. Cette incertitude existe non seulement à l'intérieur de la langue, mais aussi à travers les langues. La langue est aussi instable et variable que la mémoire. Le sens du texte n'est pas donné à l'avance. On doit le chercher, on doit le reconstituer à chaque performance. Ce n'est qu'au moment de performance que le texte digital existe. Après, il s'évanouit. Ainsi, dans la littérature numérique, il faut prendre les risques et accepter les décalages qui se présentent entre l'intention et l'interprétation. Par conséquent, c'est une textualité toujours en processus, toujours performative. Cette œuvre joue la performativité de la langue. Heureusement.
Merci. Moi, quelque chose m'a sauté aux yeux en vous écoutant tous les deux. Avant de te donner la parole, Juliette, juste une petite remarque, c'est qu'il y a quelque chose de très très plastique dans vos travaux. Et là, on est une frontière très très ténue, très mince entre ce qui relève de la littérature et ce qui relève de la production plastique, on va dire, visuelle. Là, par exemple, on pense évidemment à l'acte de Rauschenberg en train d'effacer de Kooning, etc. Il y a cette dimension. Et alors après, évidemment, c'est des questions de réseau, c'est des questions de publication, c'est des questions de diffusion, par quel réseau ça passe. Et donc, ça va porter le nom de littérature et non pas d'art visuel, ou de performance. Mais je tenais quand même à souligner cela. Juliette Mézinc, auteur dernière génération de la littérature numérique, je dirais. Pourquoi ? Parce que, Juliette, tu travailles beaucoup avec des outils déjà donnés. Je prendrai l'exemple de ton blog, je prendrai l'exemple de tes publications. Tu as publié chez Publinet Poreuse. Je prendrai également l'exemple du projet de Cécile Portier, étant donné, tu vas en parler, projet auquel tu collabores avec Philippe Ménard, Philippe Aigrin, et qui utilise la plateforme Google Street View. Enfin, voilà. Donc, y a là une mutation, je dirais presque, alors j'aime pas ce mot-là, mais on va l'utiliser quand même, Web 2, c'est-à-dire post-programmation, j'utilise déjà des outils qui existent et j'essaye de les pousser à bout pour voir comment ils peuvent être détournés. Je te donne la parole.
Merci à tous, à toutes. Je pense que tu as raison, même si c'est en train de bouger un petit peu. La question que j'aimerais que je me pose et que l'on va se poser certainement cette semaine, c'est qu'est-ce que le numérique fait à la littérature finalement ? Parce que alors je commencerai pas à répondre à cette question. Évidemment, les réponses sont multiples. Et puis Emmanuel m'avait bien dit que j'avais que 10 minutes. Donc on va essayer d'être un peu rapide, mais déjà la question, qu'est-ce que le numérique fait à mes textes, qu'est-ce qu'il a fait à mes textes, parce que bon, avant 2007 j'étais un écrivain numérique lambda, c'est-à-dire que j'utilisais le Word assez mal, je l'utilise toujours très mal, j'utilisais Internet aussi pour faire des recherches, et dans un certain sens on est tous des écrivains numériques aujourd'hui. Et puis j'ai créé un blog overblog, vraiment tout simple, en 2007, sur les conseils d'un ami. Et là, j'ai fait la connaissance avec l'Internet littéraire, avec l'énergie, la formidable énergie qui circule, les échanges qui sont très nombreux. Et ça m'a complètement enflammée. J'ai mis le petit doigt et puis maintenant, je suis vraiment complètement là-dedans. Et mon travail ne cesse d'évoluer finalement suite à ça. Et je dois beaucoup notamment au site Tiers Livre, au site de François Bon, qui m'a laissé entrevoir au départ les possibilités, certaines des possibilités en tout cas du numérique. Alors le blog, je peux pas dire, alors je suis pas sûre du tout que la pratique du blog ait fait bouger mon écriture. En même temps, j'ai réalisé petit à petit, en même temps, je suis pas sûre du tout de ça non plus. En fait, je manque un peu de recul, je pense. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai réalisé petit à petit que mon écriture convenait parfaitement à la publication sur blog. Déjà parce que j'écris plutôt des textes courts, mais qui sont reliés entre eux sous forme de série, en quelque sorte. Ça, je le faisais déjà avant. Je l'ai fait plus facilement sur le blog, avec des gens qui suivent, qui partagent, etc. Je l'ai fait pour Sujet Sensible, qui est le premier texte que j'ai fait paraître comme ça régulièrement sur mon blog et qui a été repris justement par François Bon sur Publinet. Ensuite, ce sont des formes. Là aussi, c'est un constat comme ça au fur et à mesure. En fait, on pratique, on fait les choses et puis après, on réalise, on comprend un peu au fur et à mesure ce qu'on est en train de faire. Et j'ai compris aussi que ce qui m'intéressait, c'était d'écrire entre les genres. Ce que je fais, c'est pas vraiment de la poésie, c'est pas vraiment de l'essai, c'est pas vraiment du roman ni de la nouvelle. Et il y a peu de place pour ça dans l'édition traditionnelle papier. Il y a des exemples, bien entendu. Il y a la collection Fiction Essai au Seuil, par exemple, moi que j'aime beaucoup. Et Marilyn Desbiol, il y a C'est pourtant pas la guerre, qui a été à l'origine de Sujets sensibles pour moi. Donc, on ne peut pas dire que ça n'existe pas, mais ça existe peu. Aussi, autre chose qui m'intéresse bien, enfin, qui me plaît, c'est un peu l'effet serpent de mer, vous savez, où l'auteur est présent sur différents lieux, sur le net. Moi, je publie sur Momaki, qui est mon site, mais j'ai publié aussi beaucoup de textes chez d'autres, chez Cécile Portier, qui est ici, chez Philippe Aigrin, chez Anne Savely, parce qu'on échange énormément entre nous, on échange nos textes et on fait paraître chez quelqu'un d'autre. Et ça produit toujours quelque chose d'assez intéressant. Une autre expérience, très rapidement, j'ai fait une série qui s'appelle Elle en chambre, qui est parue régulièrement sur un site qui s'appelle Des Fictions. Donc pareil, c'est une série par épisode, ça paraissait tous les deux mois. Ça aurait pu paraître dans une revue, hein, dans une revue papier, effectivement, sauf qu'on mettait aussi des images, des mises images 3D de Stéphane Gantelet. Et là, ces textes-là ont disparu de Des Fictions, ils vont réapparaître sur mon site, sur Momaki, pour ensuite disparaître et réapparaître aux éditions de l'Attente, puisque c'est un texte qui va paraître en papier. Donc, il y a quand même des équivalents. Et justement, avec Franck Prujat et Françoise Valéry des éditions de l'Attente, on est en train de se questionner sur qu'est-ce que serait l'équivalent papier d'une œuvre numérique, enfin, qui paraît en blog. Et ça, c'est assez... moi, ça m'intéresse beaucoup d'essayer de trouver une transposition, une traduction, en fait. Très rapidement, j'ai encore du temps. voilà. Et autre chose aussi, une autre forme que j'ai découverte quand j'ai envoyé Poros justement à Publinet, c'est Christine Janet qui s'en est occupée et qui m'a dit, mais ton truc, mais c'est vraiment fait pour l'édition numérique, pour l'e-pub, etc. Je dis, bon, ben oui, pourquoi? Et donc elle m'explique qu'il y aurait possibilité de circuler dans le texte par tout un jeu de liens internes et de créer plusieurs parcours de lecture pour le lecteur. Et ça m'a beaucoup troublée parce que, en fait, moi, je l'avais écrit avant même le blog, ce texte Poreuse, et je l'avais conçu de cette façon-là, avec une circulation très libre d'un fragment à un autre. Et ça m'a, évidemment, ça m'a tout de suite plu parce que ça correspondait à la façon dont j'avais conçu le texte. Donc j'ai tout de suite dit oui, et Poreuse existe. En papier, on n'aurait pas pu faire ça. Cette circulation-là, ces multiples circulations. Autre chose aussi, Emmanuel, tu parlais de Étant donné, qui est une expérience très importante pour moi, Étant donné, donc un projet de Cécile Portier, qui est une œuvre polymorphe. Là aussi, c'est une œuvre qui revêt en fait différentes formes en fonction, ce qui est intéressant, en fonction des contextes, en fonction des désirs, en fonction des rencontres avec d'autres artistes, etc. Donc, étant donné, ça existe sous une forme papier, mais bon, qui n'a pas été publiée en papier. Je ne sais pas si ça intéresse Cécile de le publier un jour, mais qui sont des textes qui tiennent aussi tout seul.
Ça ne l'intéresse pas.
Ça ne l'intéresse pas. Je crois que ça ne l'intéresse pas, mais ça pourrait. Enfin, moi, je l'ai lu en papier et vraiment, je trouve ça très intéressant. Ensuite, ça existe aussi sous forme de performance qu'on a donnée en Russie. Alors, très rapidement, parce qu'il faut quand même en parler un tout petit peu, Cécile Portier s'intéresse aux traces numériques qu'on laisse à notre insu dans les caméras de surveillance, quand on retire de l'argent, etc., et qui ressurgissent bien souvent sous forme de statistiques, par exemple. exemple. Et donc, elle s'intéresse à ce qui nous écrit. Et donc, tout son travail, c'est un peu, c'est en partie en tout cas, de reprendre la main et d'écrire sur ce qui nous écrit. Et donc, ce travail-là, il existe aussi sous de multiples formes, sous forme de performance qu'on a donnée en Russie au moment de l'affaire Snowden. Snowden arrivait, nous on y était, il arrivait à Moscou à ce moment-là. Ça existe aussi sous forme de site, et en particulier d'un site collaboratif qui s'appelle La Ville est sous nos pas, que vous pouvez aller voir et vous pouvez collaborer à ce travail. Donc ça existe sous de multiples formes. Et c'est aussi mon intention pour un texte que j'écris depuis quelques temps qui s'appelle Le Journal du Brise-Lames. Là aussi, c'est un texte avec des dessins. Ça pourrait très bien, je pense, paraître en papier. Ce sont des dessins d'Agnès Ross qui sont magnifiques, et j'aimerais qu'un jour ça paraisse en papier. J'ai absolument rien contre, mais pour l'instant, j'ai pas le temps de m'en occuper, j'avoue. Je suis justement un peu happée par le numérique. Ça existe sous forme de performance. Avec Stéphane Gantelet, nous allons vous en donner une performance courte tout à l'heure. Et ça existera aussi, ça existe sous forme d'expo avec des sculptures conçues par ordinateur, avec des textes projetés, etc. Et on sera en résidence avec Stéphane Gantelet, donc qui est artiste, au Centre des Arts d'Anguin cette année, pendant 6 mois, pour développer je ne sais pas quoi. Là aussi, c'est toujours un peu compliqué. Je dis toujours, alors je fais une espèce de, une sorte de, et là, ça sera un machin qui sera entre le livre numérique et le jeu vidéo, avec possibilité donc de se balader dans ce brise-lames qui m'est cher, qui existe à Sète, qui est donc une digue vraiment chère au Sétois. Et donc de se balader dans ce, pour le lecteur, ce sera possible de se balader dans ce brise-lames modélisé, donc dans un environnement 3D comme dans un jeu vidéo en quelque sorte. Et en fonction des actions que le lecteur sera amené à faire, ben ça produira, ça déclenchera une vidéo, du texte audio, des textes à entendre, à lire. Et ça m'intéresse beaucoup, là, ce que j'ai vu, bien entendu, je songe à des choses comme ça. Mais c'est vrai que je ne peux pas le faire toute seule. Moi, je ne suis pas très autonome, et donc je travaille beaucoup avec Stéphane Gantelet, sur lequel je compte énormément. Pour développer cette affaire qui est, je ne sais pas si un mot existe, mais qui serait un peu, c'est pas un jeu vidéo, parce que l'idée c'est pas de gagner des points ou de jouer, l'idée c'est vraiment de lire et de voir, c'est une œuvre numérique, mais c'est pas un EPUB non plus, c'est beaucoup plus complexe, et ça demande la programmation là pour le coup. Et juste une chose pour finir, là aussi, malgré moi, ce que je réalise, c'est que petit à petit, aussi, ce qui m'intéresse, c'est le langage de la programmation, le langage de la modélisation, parce que je travaille beaucoup donc avec Stéphane, qui me parle d'opérations booléennes, qui me parle de gimbal lock. Et moi, j'ai écrit un texte érotique qui s'appelle Gimbal Lock. On a fait une vidéo ensemble. Voilà, petit à petit, tout ce vocabulaire-là aussi contamine en fait mes textes. Et ça me passionne assez. Voilà. Et littérature numérique, c'est vrai que c'est un peu compliqué de parler littérature numérique, parce que je pense que c'est avant tout de la littérature ou de la création qui utilise le numérique. Mais en même temps, c'est important de mettre en avant numérique, parce que c'est spécifiquement numérique, effectivement, et c'est pas juste une numérisation. Et en même temps, c'est un peu réducteur quand on parle de littérature numérique, comme si c'était pas de la littérature ou de la création. Là, ce sont des œuvres d'art qu'on a vues. Bon, alors...
Juste par rapport à ça, ce que disait Philippe tout à l'heure, c'est qu'il n'est pas auteur de littérature numérique, il est poète. Oui, tout à fait. Mais au-delà de du point de vue artistique, il n'y a rien à redire, c'est vrai. Après, c'est, je pense, une question d'enjeu. Une question d'enjeu économique, question de positionnement dans le champ de la littérature. Comme je disais au début, enfin, je ne vais pas prendre trop la parole, mais la littérature numérique, quelque chose, encore une fois, de boudé, de méprisé même par la littérature, par le champ littéraire, c'est-à-dire par ceux qui font la littérature avec toute son économie, avec la critique, la diffusion, etc. Donc là, il y a quand même une question importante, qui est quelle légitimité pour cette littérature ? Alors, Philippe, peut-être ?
Je suis très largement d'accord avec tout ce que tu viens de dire là. sur le... Ce que je voudrais rajouter, c'est que cette position de paria, qu'on peut facilement vérifier, y compris en ligne, cette position-là, elle est quand même partagée par, pour le domaine qui m'intéresse moi, c'est-à-dire la poésie, par l'ensemble des courants expérimentaux depuis le début du XXe siècle, enfin, et même avant. Je veux dire, est-ce que tu peux considérer que les concrets, qui sont d'une certaine manière une des sources des travaux actuels dans le domaine du numérique, ou que les visuels, si tu fais un arrêt sur image, là, tu trouves tout de suite, du point de vue formel, en tous les cas, je ne parle pas du point de vue du sens, etc., etc., des choses que je connais parfaitement dans Docs, on connaît ça. Ça s'appelle la poésie visuelle.
Oui, absolument. Bon,
donc, affirmer que les littératures numériques sont... à cause du fait qu'elles soient numériques. Mm. C'est parce qu'elles sont expérimentales, ouais. C'est parce qu'elles prennent des risques, mm. C'est parce qu'elles sortent des chantiers battus, c'est parce qu'elles touchent de plus à quand même une des citadelles historiques, hein, des hiérarchies, qui pour moi sont des hiérarchies religieuses, qui est le livre, ouais. Qui est le papier. Mm. C'est pas rien, ça.
Ouais.
Bon.
Ouais.
Normal,
ouais.
Normal.
Si vous souhaitez poser une question, n'hésitez pas. Nous avons exactement 5 minutes. C'est très très peu. Je suis désolé. Donc il y a peut-être une question, peut-être deux, mais alors très très courte. Si oui. Ah, peut-être un micro. Là, juste devant à droite.
Bonsoir. Toute la beauté, je trouve aussi, de cette démarche tend vers l'immatérialité. Et le support numérique, tout simplement rendre l'âme du jour au lendemain. On n'a aucune sûreté de la pérennité de l'œuvre. Et qu'est-ce que vous en pensez, justement ? Est-ce que ça fait partie intégrante de votre
création ? Sujet auquel je réfléchis beaucoup. Alors, un, je suis absolument d'accord sur le fait que la pérennité, etc. Deux, un peu comme j'ai répondu tout à l'heure à ta question, vous en connaissez beaucoup des choses éternelles. Bon. Et trois, s'agissant de...
Merci de parler dans le micro. Oui, merci. Et puis de ne pas relancer la discussion, parce que vraiment, on est... Non, mais je suis un peu comme ça. Je suis désolé.
Non, je disais, aujourd'hui, par exemple, la dynamique de la BNF, c'est de tout numériser aussi.
Oui, bien sûr.
Dans cette idée de pérenniser.
Non, mais ça fait partie, sans doute, d'une confiance très exagérée et très infondée, quelque part, dans le fait que le numérique, d'une part, serait une forme de mémoire magique, et d'autre part, serait sans matérialité. Alors, c'est pas vrai, ça. Il est lié à un contexte machinique, il est lié... les instruments qui servent à numériser aujourd'hui ou à coder aujourd'hui, peut-être qu'ils n'existeront pas demain, etc. Alors, Jean m'en est témoin, notre atelier est rempli de machines qui ne servent plus à rien. Et pire, nos ordinateurs sont pleins d'objets qu'on ne peut plus lire aujourd'hui, hein, je veux dire, sans la machine adéquate. Parce que l'OS a changé, parce que trac, et ça va vite. Hein. Toute cette histoire-là, je l'ai racontée dans le livre qui s'appelle Update, où je trouve ça angoissant, moi. Mais bon.
Une autre question ?
Mais c'est très matérialiste, mais puisque toute la puissance économique est du côté du livre papier, comment
on vous faites... On ne vous entend pas ici, il faut parler plus fort, s'il vous plaît.
Ma question est très matérialiste, c'est puisque la puissance économique est du côté du livre papier, comment vous faites, vous, pour gagner votre vie, ou pour gagner ne serait-ce que quelque chose avec votre activité littéraire sur Internet ?
On ne gagne pas notre vie avec la littérature.
On enseigne.
Les seules fois où j'ai pu gagner de l'argent avec ça, c'est en me servant de mes compétences de programmateur pour faire autre chose.
Il y a un livre très bien de Bernard Lahire qui s'appelle « La double vie des écrivains ». Et pratiquement aucun écrivain, par ceux qui passent à la télé, ne vit de ce qu'il fait, de l'écriture.
Oui, comme le disait Jérôme, on enseigne et le moins possible pour pouvoir avoir plus de temps pour écrire. Une dernière question, peut-être.
S'il n'y a pas de question, je voudrais dire réagir à une des choses qui a été dite.
Vas-y.
Sur que tu as, d'une certaine manière, abordé tout à la fin, sur l'histoire du code. Parce que... toi, tu as dit, d'une certaine manière, que on était les old machin chose. Hein, jadis, il y avait des gens qui, etc. Et puis les jeunes générations.
Il y a eu le tournant du Web 2 quand même.
Les outils qui sont là, etc., etc. Je rappelle que les outils qui sont là, ils sont fabriqués à l'aide des outils.
Bien sûr.
Bon, non, c'est évident. Et que quand on les pousse à bout, on tombe exactement sur les problèmes des codes.
Absolument.
Deuxième chose, c'est que, ça je m'arrête là, hein, c'est que ce que j'appelle le travail du code, je trouve que c'est quelque chose de magique. Alors c'est très marrant parce que tout le monde voit ça comme un truc d'une rationalité pas possible. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'il y a le côté syntaxe, etc., etc., comme dans le latin, comme dans le grec. Hein, mais. Quand, moi, je répète, je l'ai déjà dit il n'y a pas longtemps, hein, quand tu appuies sur la touche Enter, mais c'est comme si c'était abracadabra. Tu ne sais pas ce qui va se passer en plus. Hein. Parfois, ça marche.
Oui, il y a un côté bricolage aussi, en fait, qu'on ne soupçonne peut-être pas.
C'est
quand
ça que j'appelle le travail. Ouais. Tu fais un truc.
Le micro, Philippe.
Tu as une idée pour en faire un autre.
Micro.
Ah oui, pardon. Ouais. Tu fais un truc, ça marche pas, mais ça donne une idée. C'est exactement pareil que travailler un peintre qui met ça sur la toile et puis qui craque et puis qui voit naître quelque chose progressivement. C'est pas du tout. On est là, comme je sais pas. Enfin, d'ailleurs, je sais même pas si le mathématicien est comme ça. Bon, voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Avant de passer aux performances, une dernière question, ultime question. Oui, monsieur.
Une petite réaction par rapport à ce qui est dit dans cette table. Bon, on se connaît, bien sûr, Philippe et les autres, mais il y a des œuvres, c'est-à-dire que je ne pense pas que la poésie ou littérature numérique soit quelque chose d'abstrait. Il y a déjà des œuvres et certainement même, pour certaines, des chefs-d'œuvre. Il y a des auteurs importants qui ont d'ailleurs une évolution intéressante, comme je citerai Augusto de Campos, le concrétiste brésilien, qui s'est emparé de l'ordinateur dès que ça a été possible au Brésil et qui a fait des œuvres comme City, Cité, Cidade, qui sont déjà des œuvres repérables, déjà des œuvres, je dirais, des sortes de chefs-d'œuvre. Enfin, voilà. Donc pour réagir à ce qui a été dit dans la salle en disant qu'on était dans le virtuel, pas du tout. Il y a, alors par exemple, à la BNF, il y a maintenant un service qui permet de, pour les anciens supports sur CD-ROM, sur Mac OS 9 par exemple, de les transformer et on peut les consulter. Il y a un endroit à la BNF où on peut consulter ces œuvres dans la salle de lecture. Donc je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée de on est dans une sorte d'abstraction. Bon, CD-ROM, effectivement, ça a été le gros problème parce que un CD-ROM, très vite, c'est obsolète. C'est-à-dire Mac OS 9, maintenant plus personne. En plus, les machines ont une certaine vitesse, etc. Bon, donc à l'époque, en 2002, j'ai fait un CD-ROM par Gamma. Eh bien, ce CD-ROM est consultable à la BNF, salle de lecture. Donc on pourrait citer d'autres auteurs. Je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place actuellement.
Absolument, c'est ce que je dirais peut-être pour conclure, Jérôme. Oui. Jérémy, pardon. Non, ce serait ce mot-là. C'est-à-dire que les institutions sont en train de prendre conscience et ont pris depuis déjà quelques années conscience de ces enjeux-là, de ces créations-là. Après, maintenant, comme toute institution culturelle, elles ont le devoir de conserver et de préserver ces œuvres. Ce qui est une concernant ces médias dits variables, donc il y a tout un débat autour de cela, ce qui n'est pas une mince affaire. Et je pense que là, il y a un autre chantier qui va s'ouvrir très vite et qui est celui-ci. Et on peut voir naître en Europe et aux États-Unis, au Canada en particulier, des débats autour de ces questions-là, des unités de recherche qui se mettent en place depuis un certain nombre d'années déjà. Mais en France, ça arrive. Voilà. Eh bien, je vais remercier Philippe Castelin, Juliette Mézinck et Jérôme Fletcher pour leur intervention. Et dans quelques minutes commenceront les performances, d'une succession de performances, mais on va avoir besoin un petit peu de déplacer les choses. Merci à Jérémy Desjardins, merci à la régie, merci à Philippe Boutz d'avoir organisé cette table autour de la littérature numérique. Cherchez le texte.